J'ai eu l'impression un peu que vous fuyez le devant là, de la salle. J'ai l'impression que vous êtes très loin. Vous avez peur des postillons là, qui arrivent à vous atteindre. Oh, Jonathan, yes. Oui, c'est vrai. On peut reculer, c'est juste. J'aimerais, avec vous, nous poser, pas nous poser la question, mais, oui, peut-être, nous poser la question de savoir, en fait, si nous sommes désireux d'apprendre. D'apprendre des choses nouvelles. Si nous sommes désireux de grandir dans la connaissance du Seigneur, connaissance évidemment très, très pratique, il ne s'agit pas de théorie. Nous sommes appelés à ressembler à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et cette croissance, cette évolution se fait dans un apprentissage quotidien. Et le Seigneur Jésus nous conduit souvent dans des situations où nous sommes un peu obligés de sortir de ce que j'appellerais notre zone de confort pour pouvoir apprendre, pour pouvoir grandir. Et j'aimerais avec vous lire deux textes qui, a priori, n'ont pas de lien entre eux, mais je crois qu'ils en ont un, et je vous le dirai. En tout cas, c'est comme ça que je les lis. Et je vous invite à lire le premier texte qui s'affiche, du moins, je l'espère. C'est bon ? Il arrive. Oser sortir pour apprendre, c'est le thème de ma méditation ce matin, et c'est là où j'aimerais un peu vous entraîner ensemble. Premier texte se situe donc dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 31. Texte que nous connaissons bien. Texte que nous avons lu maintes fois et que nous relisons ce matin. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers les disciples marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux !» Et Jésus dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Certains exégètes, à la fin de « Pourquoi as-tu douté ?» considèrent que c'est plutôt un encouragement à ce que sa foi grandisse, plutôt qu'un reproche de manque de foi. Je vous laisse. Et puis, deuxième texte qui se situe peu de temps avant la mort de Jésus, avant Pâques. Les disciples vont à Jérusalem pour fêter la Pâque. Ils vont à Jérusalem donc en tant que pèlerins. Et Luc nous dit ceci, comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Et ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Ils partirent pour un autre village. Alors le texte que j'avais choisi, c'est que Jésus dit, je ne suis pas venu faire mourir, mais pour faire vivre, pour donner la vie. Voilà les deux textes que nous méditerons. Alors nous les prendrons un petit peu à l'envers. Nous méditerons d'abord le texte sur cette traversée de la Samarie et sur cette confrontation entre les disciples et les Samaritains. Oser sortir pour apprendre. Tu peux passer la deuxième. Voilà. Et je vous propose ces quatre points de repère. Quatre points de repère. Comme ça, vous savez où j'en suis, à quel moment vous allez pouvoir ouvrir les yeux pour pouvoir dire un amen fervent à la fin de mon sermon. Zone de confort, état des lieux, sortir la condition de disciple, mettre mis dehors par le Seigneur, oser prendre des risques. Le lien entre les deux textes, c'est que les liens entre les deux textes, Jésus fait sortir ses disciples et les fait sortir hors de leur zone de confort pour aller dans un endroit qui est hostile. Et on voit en fin de compte quelle est la réaction des disciples par rapport à cette hostilité. Lorsque tout à coup, ils perdent leur point de repère, lorsqu'ils sont sortis de leur zone de confort. Et puis, deuxième texte, c'est Pierre qui marche sur les eaux. Et là, c'est Pierre lui-même qui prend l'initiative de sortir de sa zone de confort. Et comment, hein ? On va le voir. Et je vous propose justement de méditer ces deux passages dans cet axe-là, dans cette perspective-là. Tout d'abord, donc, zone de confort, état des lieux. Vous aimez sortir de votre zone de confort ? Quand vous venez le dimanche matin, vous aimez entendre des choses qui vous rassurent. On est entre nous, on est bien. Est-ce que vous venez quelquefois au culte pour vous sentir bousculé ? Bousculé non pas dans ce que vous savez déjà, mais peut-être dans ce que vous ne savez pas. Qui ne souhaite pas une vie calme ? Une vie sereine, une vie sans difficulté. Nous aimons tous vivre une vie tranquille, n'est-ce pas ? Et c'est tout à fait légitime. Et heureusement que nous avons ces zones de confort où nous pouvons nous reposer, où nous pouvons nous ressourcer, goûter les bienfaits de la vie. C'est l'Ecclésiaste qui nous invite à profiter des moments simples de la vie. Bois, mange ton pain et bois ton vin. Gaiement, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. C'est extraordinaire, ça. Si nous sommes amenés à profiter de ces temps et à remercier le Seigneur pour ses bienfaits, nous sommes appelés aussi à sortir de ces zones douillettes, soit en prenant l'initiative de nous-mêmes, soit conduits par le Seigneur lui-même. Quelques exemples de zones de confort, en tout cas des miennes. Le soir, lorsque je suis devant une série de télé passionnante et que tout à coup le téléphone sonne. Et alors là, je me dis, je regarde d'abord le nom qui s'affiche. Peut-être que moi. Et là, vous savez que vous allez en avoir pour une heure et demie, quoi, minimum. Qu'est-ce que vous faites, là ? Vous laissez sonner ? La zone de confort de mon père, c'était de regarder un match de foot avec devant lui sur la table, alors c'est une culture un petit peu différente de celle que vous connaissez, avec du pain et de l'huile d'olive. Et quand il était devant son match de foot, avec son assiette remplie de l'huile d'olive et du pain, je pouvais lui demander ce que je voulais. « Papa, tu peux me prêter la voiture ? Et si je rentre tard, ça ne te fait rien ?» Et là, il n'avait même pas entendu ce que je disais. Il me donnait son accord. Quelles sont vos zones de confort ? Ce qui vous procure une certaine sécurité ? Ces lieux où vous vous sentez bien, en paix. Vous avez vos points de repère qui vous rend serein, sereine. ces lieux ou ces espaces de vie que vous ne voulez pas quitter ou que vous quittez difficilement. Cette couette douillette que les ados raffolent. Passez toute une journée sous la couette en regardant des séries de Netflix. Mais voilà, sortir de notre zone de confort. Je peux passer à la deuxième diapo, s'il te plaît. Sortir de notre zone de confort est la condition sine qua non pour être élève de Jésus ou être disciple. C'est la même chose. Nous savons que les disciples, que l'appel que Jésus a lancé à tes disciples, à ses disciples, est un appel à sortir de leurs habitudes pour leur suivre. Et l'appel se résume en une seule phrase. Qui peut me la dire ? Pardon ? Viens et suis-moi. Renoncer à soi-même, c'est la conséquence, Laurence. Viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Et qu'est-ce qu'ont fait les disciples que Jésus l'a appelés ? Ils ont tout laissé. Certains ont laissé leur entreprise de pêche. Certains ont laissé leur filet pour suivre Jésus. D'autres leur bureau de taxes ou l'hôtel des impôts. Et je suis certain que parmi vous, plusieurs ont quitté leur lieu familier pour suivre le Christ. Un travail trop entreprenant pour être plus disponible pour l'œuvre de Dieu. Mais comme je disais, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas facile. Il faut parfois se faire violence pour sortir de sa zone de confort. Je suis convaincu que si je posais la question, cette question, voulez-vous grandir en Christ ? Cette question que j'ai posée. Chacun d'entre nous dirait quoi ? Mais oui, bien sûr que je veux grandir. Je veux ressembler à Christ. Chacun d'entre nous dirait oui, bien évidemment. Naturellement, nous voulons grandir en Christ. Mais à condition que cette croissance se passe dans ma zone. Je veux grandir, mais surtout pas être dérangé. Pour le dire de manière plus directe, sans que cela ne me coûte rien ou pas grand-chose. Sans prendre le moindre risque. Une vieille chanson populaire. Alors, je ne vous dirai pas le nom de la chanteuse, sinon je vivrai un moment d'immense solitude. Disait dans son refrain, tout le monde voudrait aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Je n'ai pas choisi de sortir de ma zone de confort il y a une année, Muriel non plus. Le Seigneur nous y a poussés. Pour quelle raison ? Nous aider à grandir et nous aider à mieux le connaître. J'y reviendrai. Je veux passer à l'autre diapo, encore une fois. La suivante encore. Encore. Dehors par le Seigneur. Jésus, dans ce passage où il traverse la Samarie, entraîne ses disciples hors de leur zone de confort. Et ce séjour en Samarie est un exemple parlant. Comme je disais, Jésus et ses disciples se rendent à Jérusalem pour la Pâque. Ce n'est pas la première fois que Jésus se rend en Samarie, hein, souvenez-vous, ce dialogue avec la Samaritaine. Mais là, il se rend en tant que pèlerin à Jérusalem. Et vous vous souvenez que les Samaritains ont un autre lieu de culte, le mont Garizim. C'est en fait un peu comme une provocation hein, que Jésus, là, réalise avec ses disciples. Comment les Samaritains peuvent-ils accueillir des Juifs qui négligent leur propre lieu de culte? Quel est l'intérêt de Jésus à mettre ses disciples dans cette situation si inconfortable? C'est certainement pas le détour qu'impliquait l'évitement de la Samarie qui est en cause. Les kilomètres ne font pas peur à ces hommes habitués à battre la campagne. Il me semble que deux leçons ressortent du texte et qui s'appliquent à nous-mêmes, ces deux leçons. Tout d'abord, pour apprendre à nous connaître nous-mêmes. Vous savez, quand nous avons nos lieux de repère bien connus, lorsque nous sommes en sécurité, nous réagissons par automatisme. Nous ne sommes pas poussés au-delà de nos limites. Mais dans les situations extrêmes, nous nous révélons nous-mêmes, tels que nous sommes, réellement. Les disciples, et plus particulièrement Jacques et Jean, face à l'hostilité des Samaritains, expriment en fait toute leur haine, toute leur colère. Que veut-il faire des Samaritains? Passer au chalumeau. Il veut les brûler vifs. Attendez, moi, ce n'est pas du tout l'image que j'ai de Jean. Comment est-il connu, Jean? Comme étant l'apôtre de l'amour. Oh! Alors, Jean va grandir. Parce que Jésus va le faire grandir en l'amenant hors de ses zones de confort. Mais là, il a juste envie de brûler les Samaritains. Mais un extrémiste, Jean. Certains évoqueront la fatigue. Parfois, effectivement, comme nous sommes amenés hors de nos zones de fatigue, c'est la fatigue, l'épuisement. Il n'y a pas si longtemps que cela, les disciples étaient envoyés en mission et ils ont rencontré, là encore, de la résistance, de l'hostilité, la tension. Mais je ne crois pas que cela soit la cause. C'est le tempérament profond qui ressort. Dans nos situations extrêmes, les digues ou les filtres qui ne sont pas trop sollicités, eh bien lorsque nous sommes hors de notre zone de confort, ces filtres et ces digues volent en éclats lorsque nous passons dans cette zone d'insécurité. Ce n'est pas pour rien que Jacques et Jean sont appelés fils du tonnerre. Fils du tonnerre. Je suis de cette descendance-là aussi. Oui, le contexte n'est pas ce qui crée, mais il est un facteur aggravant, révélateur de mon tempérament. Que faisons-nous lorsque ces situations inconfortables jouent le rôle de miroir et nous renvoient une image de nous-mêmes peu glorieuse? Guy Appéré, que certains d'entre vous ont connu, faisait des camps itinérants en Grèce ou en Turquie, aussi des zones hors des zones de confort. Et il recommandait à ces couples qui envisageaient le mariage de faire ces camps avec lui pour mieux qu'ils se connaissent l'un et l'autre. Dans ces moments de fatigue, de longs voyages, il n'y avait pas la clim à l'époque, il n'y avait rien de... On dormait ou on ne dormait pas. Et tout à coup, les caractères se révélaient, surtout en communauté. Et tout à coup, le fiancé, qui se révélait être quelqu'un d'extrêmement doux, se révélait être colérique. La fiancée, très amoureuse, envoyait son futur mari promener à tout bout de champ. Vous voyez. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de fiancés qui ont poursuivi leur projet. Il y a beaucoup d'exemples qui confirment cette évolution, cette révélation, pardon, des caractères. Souvenez-vous, Jonas, un prophète que Dieu a choisi. Il était placé hors de sa zone de confort. Et voilà que l'homme de Dieu se révèle dans ces moments-là d'un tempérament ombrageux, boudeur et haineux. Jean-Marc, moi connu celui-ci, cousin de Barnabas, compagnon de voyage de Paul et Barnabas lors de son premier voyage. Homme courageux qui abandonne sa fragilité, sa peur se révèle dans ces moments-là. Que dire de Moïse ? Moïse qui commence son entrée en scène sur la place publique par un crime. Dieu va le transformer, le changer. Et à la fin de son ministère, ramené dans une zone hors de sa zone de confort, que fait-il ? Il retrouve son ancienne nature. Il se met en colère contre le peuple. Ça va lui coûter cher. Mais alors, il y a quelque chose de très intéressant dans ce passage. C'est qu'en fait, Jacques et Jean vont faire quelque chose de surprenant et quelque chose qu'il nous faut imiter. Parce que ces disciples ont une certaine naïveté. Que font-ils juste avant quand même d'envoyer le feu du ciel ? Ils demandent, ils prient. Ils ont encore cette lucidité extraordinaire dans leur haine. Ils prient. Jésus, veux-tu que nous brûlions ces Samaritains ? L'idée est terrible, mais je trouve qu'il y a quand même une certaine, un côté spirituel là-dedans. Veux-tu que, et si nous envions autant, lorsque la colère tout à coup nous prend à l'égard d'un frère ou une sœur, Seigneur, veux-tu que je lui fiche mon poing sur la figure ? Seigneur, veux-tu que je l'insulte ? Pouvoir dire cela à Dieu, tout à coup nous remet en place. Tout à coup nous interpelle. Et oui, si avant de laisser éclater notre tempérament, nous demandions au Seigneur si nous pourrions le faire. Mais bon, peut-être que vous avez des prières beaucoup plus spirituelles que les miennes. Mais je trouve intéressant. Et du coup, une question que l'on a souvent, peut-être quelquefois un peu méprisée. Que ferait Jésus dans cette situation-là ? Que ferait Jésus dans cette situation-là ? Elle est bateau, cette... mais elle est tellement pertinente. Que c'est ces paroles-là que tu utiliserais ? Est-ce que c'est de cette manière que tu réagirais ? Et puis enfin, ça nous apprend aussi le projet de Dieu. Je ne suis pas venu pour faire mourir, mais pour sauver. Il y a deux théologiens qui enseignaient dans la même école et qui sont allés se promener. Et ils étaient heureux de pouvoir se détendre, pouvoir parler les deux ensemble. dans un endroit tranquille. Et puis malheureusement, ils ont vu au bord de l'endroit où ils, bord du lac où ils voulaient s'arrêter pour pouvoir profiter, un groupe de jeunes avec guitare, avec, enfin, vous voyez, un bruit phénoménal. Et l'un des deux théologiens dit à l'autre, bah, c'est fichu, là, pour nous, là, tranquille. Et l'autre se dit, mais ce groupe-là, on pourrait essayer de nous joindre à eux pour leur parler de l'Évangile. Deux théologiens, deux visions différentes sur le monde. Deux visions différentes sur le monde. Ils voyaient ce groupe de manière totalement différente. Dans les situations où nous sommes placés hors de notre zone de confort, de ces matins où nous nous levons et nous avons simplement l'impression que tout va de travers. Ça vous est jamais arrivé ? On a tout envie d'aller, d'envoyer promener. On a juste envie d'aller se recoucher. Si on disait au Seigneur, que veux-tu faire de cette journée qui part de travers ? Seigneur, que veux-tu faire de cette journée qui semble être une journée pourrie du début à la fin ? Croyez que le Seigneur est juste le Dieu de nos temps bons, ou est-il aussi le Dieu de notre temps? Est-il le Dieu souverain qui gère nos temps et notre contre-temps? Deuxième. Que révèle la manière dont je vis ces situations? C'est une question que l'on peut se poser. Que ferait ou que dirait Jésus à ma place? Je vis sur le deuxième et ce sera plus court. Je vous... Voilà, c'est quelques exemples. Jean sur mes fils du tonnerre deviendra l'apôtre de l'amour. Jean qui a su tellement se rapprocher de Jésus, tellement comprendre en fait qui n'était pas grand-chose sans l'amour de Jésus, a pu se décrire comme le disciple que Jésus était. Encore plus loin, oser prendre des risques. Je vais très vite, parce que cette histoire est intéressante. Il y a donc tout cet aspect, cette partie où Jésus nous emmène, n'est-ce pas, hors de notre zone de confort. Mais il y a cette histoire où, là, c'est Pierre qui prend l'initiative, une initiative tout à fait personnelle. Jésus ne lui a rien demandé, n'est-ce pas? Ce n'est pas Jésus qui invite ses disciples à sortir de leur zone de confort, mais c'est Pierre lui-même qui prend tous les risques. C'est lui qui fixe en quelque sorte la hauteur de la barre de sa foi. Jésus ne lui a rien demandé. Il vient au contraire à leur rencontre pour les rassurer, dans un lieu agité. Et je me pose la question, mais c'est quelle est, en fait, quelles sont les motivations de Pierre? Je ne sais pas, mais certains diront qu'il est pétri d'orgueil. C'est possible, mais j'aurais plutôt tendance à croire qu'il a envie de montrer à son maître qu'il l'aime. Pierre est un peu comme un chiot, vous savez, qui court dans tous les sens et il veut montrer à son maître qu'il est là. Mais il est très maladroit. Et Pierre veut montrer à Jésus qu'il l'aime et il veut le rejoindre. Et cet enthousiasme immodéré, un jour, lui coûtera cher puisqu'il reniera son maître. Mais n'empêche que je trouve que cet enthousiasme de Pierre mérite, je crois, d'être salué. Ne serait-ce que par la motivation de vouloir montrer à son maître qu'il veut vraiment être à la hauteur de l'intérêt que Jésus lui porte. Et il y a comme ça des moments où on a envie. On a envie de vraiment nous dépasser pour montrer à Jésus qu'on est là, qu'on veut être à la hauteur de cet amour, qu'on veut être à la hauteur du projet qu'il a pour nous. Et parfois, on surjoue notre foi. Notre foi ne suit pas l'amour que l'on a pour le Seigneur. Ça ne vous est jamais arrivé. On aime le Seigneur. Puis tout à coup, la confiance dans certaines situations n'est pas là. Et le manque de foi n'est pas un manque d'amour pour le Seigneur. C'est tout simplement un moment de doute. De doute, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'était juste? Et sortir de cette barque, pour Pierre, a été un acte de foi. Qui serait sorti de la barque? Pas moi. Et les disciples qui sont, les autres disciples qui sont au fond de la barque, ils sont le beau rôle. Vous savez, c'est comme parfois quand il y a toujours dans une classe quelqu'un qui lève la main le premier. Voilà. Il est toujours en train de lever la main. Et puis les autres derrière ne lèvent jamais la main parce qu'ils savent que celui-ci, de toute façon, il va se jeter à l'eau. Mais ils veulent juste savoir derrière lui, se cache derrière lui, pour savoir ce qui va arriver. C'est exactement pareil pour les disciples. Ils sont restés dans la barque. Ils sont très contents que Pierre se lance à l'eau pour savoir ce qui va se passer. Il va tenir, il va couler. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que même dans ces situations où on a surjoué notre foi, où l'on a pris des risques inconsidérés, là peut-être nous n'aurions pas dû en prendre. Face à notre folie, le Seigneur est toujours là. Il ne va pas laisser Pierre s'enfoncer. Il va lui tendre la main. Il va le rattraper. Pierre, dans ce face-à-face, apprend, après quelques pas, à peur. Le courage du départ, après avoir été invité par le Seigneur, ce courage s'enfuit. Mais trop tard, il s'est jeté à l'eau. Combien de fois avons-nous eu cette impression? Après nous être engagés à quitter notre zone de confort, à éprouver la peur, voire la panique. Et si je n'avais pas assez pour finir le mois? Et si j'avais une bêtise si j'avais fait une bêtise en affirmant ma foi? Et si j'avais fait une bêtise en refusant de m'associer à certaines actions pas très nettes? C'est pas si grave. La peur, le doute du bien fondé de ma démarche, ce sentiment d'insécurité, Pierre le ressent tellement. Pour rejoindre le Seigneur, c'est-à-dire sa volonté, il nous faut parfois nous engager sur un chemin dont nous ne savons pas forcément où il va mener. La seule certitude, c'est que nous l'avons fait parce que le Seigneur répond à notre désir de le rejoindre. Pierre apprend à se connaître. Sa foi n'est pas à la hauteur de son amour pour le Seigneur. Il aime le Seigneur, cela ne fait aucun doute, mais sa confiance a encore besoin de grandir. Et elle grandira aux côtés du Maître. Dans bien des échecs de nos vies, ce n'est pas l'amour pour notre Dieu qui est en cause, mais notre confiance en lui. Pierre n'a jamais cessé d'aimer son Maître, même quand il le trahit. Ce n'est pas l'absence d'amour, mais l'absence de confiance. Pierre va apprendre la fidélité de Dieu, qui se manifeste aussi quand nous avons perdu confiance. Pierre doute, panique, mais le Christ ne le laisse pas couler. Et c'est une réalité tellement importante. Face à nos peurs, face à nos angoisses, face à nos décisions irréfléchies même, dans le domaine spirituel, Jésus ne nous laisse pas tomber. Face à notre manque de foi, il nous tend la main, nous repêche, nous remet pour un temps dans notre zone de confort. Il y aura encore un demain où nous pourrons apprendre à faire un peu plus confiance à celui qui nous a tout donné. Sortir de notre zone de confort, je l'ai appris. Si on m'avait dit, Nordine, je crois que ça serait bien que tu ailles à l'hôpital quand même, parler à ces docteurs, à ces soignants et à ces aides-soignantes. Que tu leur parles de la foi, de l'importance de la foi, et notamment dans ce domaine si particulier qu'est l'hôpital où la maladie, la souffrance et la mort sont les lieux communs. Qu'est-ce que j'aurais dit ? Ok, Seigneur, je vais y aller. Mais d'abord, je vais aller voir Pedro. Je vais aller voir Pedro pour faire une petite formation quand même. Il a un peu plus d'expérience avec le milieu hospitalier que moi. Donc, je vais voir Pedro. Je lui dis, écoute, est-ce que tu as des choses à m'apprendre pour appréhender ce milieu hospitalier ? Et en bon enseignant que Pedro est, il m'aurait briefé. J'aurais fait un PowerPoint super. J'aurais pris rendez-vous avec la personne chargée de ce genre de démarche. Et avec ma cravate, ma veste, mon PowerPoint et tout, j'y serais allé. Ok, Seigneur, je suis prêt. Regardez, c'est pas comme ça que tu vas y aller. Tu vas y aller en malade. Tu vas y aller en mourant. Je ne sais pas si j'aurais dit ok. Je ne crois pas. Dans mon scénario initial, j'aurais été dans ma zone de confort. J'aurais, je pense, à peu près maîtrisé le sujet. J'aurais pris des exemples magnifiques. Le Seigneur m'a dit, c'est pas tout à fait comme ça que j'imagine ton témoignage dans ce milieu-là. J'ai appris ce que voulait dire en lui, nous avons le mouvement, la vie et l'être. Il ne se passe pas un jour, mes frères et sœurs, sans que je remercie le Seigneur pour le souffle de la vie, pour la possibilité, ma capacité à déglutir, pour ma capacité à marcher. Hier encore, avec Muriel, nous sommes allés nous promener. Au col des Moises, un col de... Et j'ai fait ce col il y a, à la sortie de mon hôpital. J'ai ramé. Cette fois-ci, je le faisais allègrement. Merci Seigneur. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à tout ce personnel soignant avec qui, de manière ou d'une autre, j'ai pu partager ma foi. J'ai aussi appris de manière extraordinaire ce que voulait dire faire partie de la famille de Dieu. À cause de vous. À cause de vous. Je crois n'être plus le même. Pas du tout le même. Après que le Seigneur m'ait appelé à sortir de ma zone de confort. Je crois que je lui ressemble un tout petit. Plus. Puisse le Seigneur nous aider, lui remettre tous nos temps et nos contretemps pour grandir en lui. Amen. Prions. Tu connais, Seigneur, nos combats, nos luttes. Tu connais les situations dans lesquelles nous sommes. Tu connais notre état d'esprit. Je te prie, Seigneur, pour que ton Esprit Saint nous visite ce matin. Pour que nous puissions reconsidérer peut-être la manière dont nous vivons nos temps difficiles, nos contretemps. Seigneur, viens. Viens nous apprendre à te faire confiance. Chaque jour un peu plus. Pour que notre vie soit toujours vécue sous ton regard. Aide-nous, Seigneur, à ne jamais perdre le fil de notre relation avec toi, qui ne soit jamais distendue. Mais que tous ces événements qui nous mettent hors de notre zone de confort contribuent à nous rapprocher de toi, à décider de manière plus précise encore ce visage d'un Dieu d'amour et de grâce. Je te le demande en ton nom. Amen.